Écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 décembre 1942, l'assassinat de l'amiral Darlan. En cette veille de Noël 1942, il fait un temps splendide à Alger. Au palais d'été, résidence du haut commissaire, une voiture s'arrête dans la cour peu avant 15h. L'amiral François-Xavier Darlan en descend. Il se dirige vers son bureau. Dans l'antichambre, un jeune homme attend, mince, élégant. Un coup de feu retentit, suivi d'une seconde détonation. L'amiral s'effondre. Le jeune homme tient un revolver à la main. Il est difficilement maîtrisé. Pressé de questions, il déclare s'appeler Morand. En réalité, il se nomme Fernand Bonnier de la Chapelle. Fils d'un notaire devenu député du Lot-et-Garonne, diplômé de l'école navale, Darlan est un valeureux combattant de la Première Guerre mondiale. Major des hautes études navales en 1925, il devient contre-amiral en 1929, puis chef d'état-major de la marine en 1937. Grand croix de la Légion d'honneur, il est élevé au grade d'amiral de la flotte en juin 1939. Il est nommé ministre de la Marine dans le gouvernement de Philippe Pétain le 16 septembre 1940. Le 13 décembre, Pétain renvoie Pierre Laval, jugé trop favorable à l'Allemagne nazie. Darlan lui succède à la tête du gouvernement de Vichy. Le 18 avril 1942, Pétain rappelle Laval. Darlan abandonne alors toutes ses fonctions gouvernementales. Il demeure toutefois commandant en chef des armées de terre, de mer et de l'air. Darlan n'éprouve aucune sympathie pour le nazisme. Il est néanmoins persuadé de la victoire allemande. Fidèle à Pétain, il est pragmatique. En juin 1941, il déclare à l'amiral William Leahy, ambassadeur des États-Unis à Vichy, « Si les États-Unis sont à même de débarquer à Marseille 500 000 hommes, 3 000 chars et 3 000 avions, moi, Darlan, je suis prêt à marcher avec vous. » Le temps passe et aucune réponse américaine ne confirme cette proposition. Cependant, dans les premiers mois de 1942, Darlan renouvelle son état-major. Il remplace les officiers collaborationnistes par d'autres, favorable aux puissances alliées. La certitude du triomphe de l'Allemagne s'estompe. En septembre 1942, Alain Darlan, fils de l'amiral, sollicite un rendez-vous avec Robert Murphy, représentant personnel du président Franklin Roosevelt en Afrique du Nord française, pour lui transmettre quelque chose de la part de son père. Retenu aux États-Unis, Murphy fait recevoir Alain Darlan par Felix Cole, premier consul général américain à Alger, qui s'en ouvre à Jean Rigaud, l'une des cinq personnalités qui élabore les plans du débarquement en Afrique du Nord. Les Américains sont alors en quête d'un chef français indiscutable, à l'appel de qui l'Afrique du Nord pourrait se soulever le jour J. Perçu comme l'homme des Anglais, Charles de Gaulle est écarté. Certes, il existe bien un modeste mouvement gaulliste en Algérie, avec notamment René Capitan, mais son autorité paraît inexistante. Le général Henri Giraud, qui vient de faire allégeance à Pétain, est l'homme de la situation. Toutefois, il est hésitant. Il souhaite reprendre les armes, mais il considère que l'opération militaire doit se jouer en métropole avec les 100 000 hommes de l'armée d'armistice soutenus éventuellement par un débarquement américain en Provence. Finalement, En juin 1942, le général Giraud se rallie à l'idée d'un débarquement en Afrique du Nord. Il accepte de se rendre le moment venu en Algérie pour y prendre le commandement des forces françaises. Le 28 octobre 1942, Murphy informe le général Giraud que le débarquement est fixé au 8 novembre. L'action débute la veille, à 23h30. L'effet de surprise est total. Alger est rapidement aux mains de la résistance. Murphy demande à Darlan de rejoindre le mouvement. Refusant de trahir son serment envers Pétain, il communique avec lui par fil direct, ignoré des Allemands. Le chef de l'État français lui répond « Vous savez que vous avez toute ma confiance ». Darlan interprète cela comme une sorte de blanc-seing. Il est maintenant persuadé de la nécessité de traiter avec les Américains. Au début de l'après-midi du 8 novembre, le maréchal Juin, sur l'ordre de Darlan, signe la reddition d'Alger. Le lendemain, le général américain Clark rencontre Darlan. Il lui affirme que 150 000 hommes ont débarqué, ce qui est inexact, et le presse de signer un armistice. De nouveau, Darlan consulte Pétain par la ligne téléphonique secrète. Le chef du régime de Vichy répond qu'il est pleinement d'accord. Il précise qu'il ne peut donner d'instructions définitives sans consulter Laval, parti conféré avec Hitler. Darlan envoie un nouveau message à Pétain, l'informant que les officiers de son entourage estiment urgent de cesser le combat. Le 10 novembre, à 10 heures, Clark retrouve Darlan. Le climat est orageux. L'officier américain n'admet plus aucune tergiversation. Il laisse 30 minutes à Darlan pour se décider sous peine d'être mis en état d'arrestation. L'amiral franchit alors le Rubicon. À 13 heures, Giraud est informé de la décision de Darlan, qui incarne désormais l'autorité suprême en Afrique du Nord. La carte Giraud n'existe plus. En métropole, les événements se précipitent. Les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone libre. Conscient du risque qu'encourt la flotte mouillée à Toulon, Darlan lui ordonne de gagner Dakar. L'amiral Delaborde refuse d'obtempérer et à l'approche des Allemands donne l'ordre à la flotte de se saborder. La rupture de l'armistice par l'Allemagne et la protestation officielle de Pétain donnent définitivement les mains libres en Afrique du Nord à Darlan. Dorénavant, il s'exprime au nom du maréchal prisonnier. Dès son arrivée à Alger, le général Eisenhower le présente comme le meilleur ami des États-Unis. À Londres, la presse britannique se déchaîne. Elle accuse les Américains d'avoir enfreint les règles les plus élémentaires de la morale en mettant en place en Afrique du Nord le tenant de la collaboration avec l'Allemagne nazie. L'amertume du général de Gaulle et des combattants de la France libre est immense. Seuls, depuis 1940, ils estiment avoir sauvé l'honneur de la France. Or, ils sont tenus à l'écart. Aux États-Unis, la presse exprime sa gêne et même son hostilité. Plus les semaines passent et moins à Alger la position de Darlan paraît confortable. Le chef des gaullistes, René Capitan, orchestre une campagne de dénigrement. Sur les murs, il est possible de lire « Darlan est un traître » ou bien « Tuer Darlan » ou encore « L'amiral à la flotte ». Si une majorité de Français d'Algérie admet encore l'autorité de Darlan, une minorité de plus en plus agissante estime que tous les problèmes seraient résolus s'il quittait le pouvoir. C'est dans ce contexte tendu que survient son assassinat. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Dans un instant, la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée par Emmanuel. Mais avant cela, un détour par la chanson avec Jacques Brel. Nous écoutons un titre de 1962, « Le plat pays ».
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler. Avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai. Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, quatre livres aujourd'hui, à commencer par celui de Mathias Hénard aux éditions Actes Sud, Déserté, deux récits, deux voix, celle d'un soldat inconnu tentant de fuir sa propre violence, celle d'un Allemand mathématicien de génie, rester fidèle à ses convictions communistes, mais c'est surtout celle de milliers d'hommes face à la guerre, la désertion, l'amour et l'engagement. La guerre du soldat n'est pas nommée, était-ce celle née de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie ou celle russo-ukrainienne ? On reste interrogatif, au lecteur de faire son choix. Quant au récit de la vie du mathématicien et donc de l'Europe de la seconde moitié du XXe siècle, il est retracé par sa fille. Déserté, c'est signé Mathias Hénard et c'est publié aux éditions Actes Sud. Les Folies de Königsmark de Gilles Lapouge aux éditions Albin Michel. Les Königsmark, une famille de soldats venus du Nord qui, du début de la guerre de 30 ans en 1618, à la bataille de Fontenoy en 1745, bataille au service du roi de France, de l'empereur germanique, du roi de Pologne ou de celui de Suède. Le dernier guerrier de la lignée, le maréchal de Saxe, fils bâtard d'Aurore de Königsmark et du roi de Pologne, Auguste le Fort, né en Allemagne, se bat contre Louis XIV avant de sauver Louis XV, manque de devenir tsar, roi de Madagascar, prince de Courlande ou de Corse, aime des princesses et des chimères, des comédiennes et des paysannes. Ce maréchal romantique meurt au château de Chambord. Il est inhumé à Strasbourg, en l'église Saint-Thomas. Et sa légende commence au moment de son décès. C'est passionnant, c'est signé Gilles Lapouge. Ça s'intitule « Les Folies de Königsmark ». C'est publié aux éditions Albin Michel. « Un œil bleu pâle » de Louis Bayard aux éditions Le Cherche-Midi en 1830. L'Académie militaire de West Point est une institution soucieuse de taire tout incident qui pourrait nuire à sa réputation naissante et notamment le suicide d'un élève. Et si l'on apprenait qu'il a eu ensuite le cœur arraché, ce serait non plus le prestige, mais l'existence même de l'établissement prestigieux des États-Unis qui serait menacé. Aussi, la direction fait appel à Gus Landor, un inspecteur de police en retraite réputé pour son efficacité, sa discrétion, mais aussi son irrévérence. Pour résoudre cette énigme teintée de satanisme, celui-ci recevra l'aide d'un élève astucieux qui, le temps de l'enquête, devra mettre ses ambitions littéraires de côté, Edgar Allan Poe. Ce roman a été adapté en film pour Netflix avec, dans l'un des principaux rôles, l'actrice Charlotte Gainsbourg. Un œil bleu pâle de Louis Bayard, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Et je termine cette chronique par Les Maîtres de Bayreuth de Charlie Roquin aux éditions Le Cherche Midi. Moshe Grinbishnich est un célèbre critique wagnérien. Comme tous les ans, il se rend au festival de Bayreuth qui est le Vatican de la musique wagnérienne, où ses amis sont présents et surtout ses avis sont attendus avec beaucoup de fébrilité. Après chaque représentation, il tient tribune dans une taverne où l'on se sert pour l'écouter. Tout se déroule comme d'habitude, quand survient l'impensable. Un jeune inconnu le contredit publiquement avec une insolence inouïe. Comment hostile qui est-il ? Une joute qui dépasse la simple contradiction musicale, c'est à lire, c'est passionnant. Ça s'intitule Les Maîtres de Bayreuth, c'est signé Charlie Roquin, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Alors j'ai un peu écorché le nom du célèbre critique wagnérien, il s'agit de Moshe Grimnich. Voilà, pour cette chronique. Un jour, trois livres, quatre en fait cette semaine. Merci à Emmanuel qui l'a préparé. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Nous nous séparons en chanson, toujours avec Jacques Brel. Un titre de 1964, Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent. Au large d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de coups pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin,
Ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.